Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Vous écoutez Radio PFM et vous avez bien rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec son président Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Voilà, donc il est bien avec nous. Au sommaire aujourd'hui, c'est un rendez-vous régulier pour 813, puisque le numéro 117 de la revue 813 vient de sortir. Nous parcourrons ensemble cette revue. Et puis, il y aura aussi le coup de cœur de Louchien de janvier 2014. Alors, Hervé, comme toute bonne, dans toute bonne revue, il y a pour commencer un édito qui est signé par toi-même, bien entendu, et un édito placé sous le signe de Raymond Chandler, Hervé.
Oui, il était placé sous le signe de Raymond Chandler parce que, c'était parti de deux choses. Il y a eu un dossier dans Libération qui était paru en disant Marlowe à 100 ans avec différents articles. Ça accompagnait la publication dans la prestigieuse collection Quarto de Gallimard des sept romans de Raymond Chandler qui mettent en scène le détective Philippe Marlowe et on y annonçait une édition révisée des textes de Raymond Chandler, donc...
Traduction révisée, donc pas une nouvelle traduction, comme ça a été le cas pour Dachiel Hammett.
C'est un peu ça que, au détour des lignes, j'ai un peu pointé, c'est-à-dire que, contrairement à Dachiel Hammett, qui avait fait l'objet d'un quarto il y a quelques années, traduit par Nathalie Benat, avec une retraduction intégrale des romans de Hammett par Nathalie Benat et Pierre Bondil, eh bien là, c'est une traduction révisée. Alors c'est déjà une très bonne initiative, bien sûr, quand on voit ce qu'étaient les textes qui étaient parus à la série noire. On n'a plus des titres peut-être drôles, mais enfin très très éloignés de l'œuvre de Chandler et de ses titres à lui, comme Fais pas ta rosière, par exemple. Révisé, on peut poser la question de savoir pourquoi le même travail n'a pas été fait pour Raymond Chandler qu'il l'avait été pour Dachiel Hammett, parce que effectivement, on sait dans quelles conditions, à l'époque de la série noire, ces titres avaient été traduits à la va-vite, qu'il fallait... fallait respecter une espèce de code d'une collection, il fallait un nombre de pages calibré, il y a des choses qui sautaient, etc. On utilisait de l'argot Pigalle, enfin, qui évidemment a totalement vieilli et tout. Mais enfin, pourquoi ne pas retraduire, à partir du moment où on considère que c'est de la littérature, et à partir du moment où c'est dans une collection par ailleurs de grandes références, où il y a très grands noms de la littérature, on retraduit puisqu'on sait très bien qu'il le faudrait. Et en annexe, et quelle que soit toute la sympathie littéraire, et plus d'ailleurs que j'ai pour un auteur comme Boris Vian, qui a traduit deux romans de Raymond Chandler, et où là, on apprend que, comme c'est en gros, les traductions de Boris Vian n'ont pas été retouchées, alors là, c'est quand même très étonnant, parce que, quels que soient les talents littéraires de Boris Vian comme écrivain, on ne voit pas en quoi, à moins de considérer qu'il s'agit de textes sacrés et intouchables, on ne réviserait pas... cette traduction-là aussi, on n'en proposera en tout cas pas une alternative.
Oui, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, les traductions de Boris Vian, ça reste quelque chose d'intéressant du point de vue littéraire, mais on pourrait à côté avoir une traduction, une nouvelle traduction, plus fidèle au texte.
On sait très bien, quand un écrivain traduit un autre écrivain, il y a par ailleurs, je ne sais pas précisément quel était le niveau de connaissance de l'anglais, de la langue anglaise et de la culture américaine de Boris Vian, mais enfin c'est pas parce que il avait fait des livres sous le pseudonyme de Vernon Sullivan que ça veut dire que sa traduction est la seule, en tout cas elle est définitive pour les siècles des siècles, c'est ce que tu dis.
Alors, tu conclus ton édito par une citation de Chandler qui pourrait être la devise de 813, non ?
Oui, qui pourrait être la devise de 813 de ton émission.
Oui.
Voilà, cette citation, tu l'as dit ou ?
vas-y, c'est toi qui la cite.
C'est tiré d'un... Raymond Chandler, il a fait un petit essai qui s'appelle The Simple Art of Murder, qu'on peut traduire différemment, mais l'art simple du crime ou d'assassiner, qui est une sorte d'étude très très pertinente sur le roman policier, le roman noir et l'irruption de Dashiell Hammett et ce que ça a apporté. Et à un moment, il dit qu'on me montre quelqu'un qui ne peut pas souffrir le roman policier. Ce sera un pauvre type intelligent peut-être, mais un pauvre type tout de même. Voilà,
c'est la citation. Et puis tu conclus par un bonne année malicieux derrière. Effectivement, on est encore en janvier, et donc on peut souhaiter une bonne année à tous ceux qui lisent du roman noir, du roman policier, et même à tous les autres. Alors, Hervé, donc on avance dans ce numéro de 813, numéro 117. Alors, on commence par un hommage donc à trois personnalités des littératures policières. Alors, il y a Elmore Leonard, on en avait déjà parlé dans Variation.
Oui, absolument.
Donc, avec plusieurs articles hommages qui permettent de resituer cet auteur américain qui a fait du western, qui a fait du roman noir, qui a fait beaucoup de choses. Et alors aussi, il y a un hommage, et là tu vas peut-être nous en dire un petit mot, à Michel Gorgiev.
Oui, Michel Gorgiev, c'était... Il vivait à Montpellier, il a créé... il y a plus de 15 ans, le Festival international du roman noir de Frontignan. Et Frontignan, petite ville, mais ce festival, très vite, a été la référence, parce que avant qu'existent des festivals de grande envergure comme Quai du Polar à Lyon, par exemple, eh bien le FIRN, le Festival de Frontignan, a fait venir des pointures absolument extraordinaires venant de différents endroits de la planète, des Américains comme Dennis Lehane, comme Elmore Leonard, justement, mais beaucoup, beaucoup de gens, et qui arrivaient dans cette petite ville et où ils étaient accueillis merveilleusement. Michel Gorgiev, c'était un lecteur infatigable, un passeur, quelqu'un de totalement passionné et chaleureux, et le festival était à son image, et Michel Gorgiev, sa disparition, qui nous a beaucoup touchés, c'était un ami, Michel Gorgiev... ça a vraiment été un incontournable de la galaxie polar de ces 20 dernières années, et on a voulu on voulait absolument lui rendre hommage, et en affirmant aussi qu'évidemment on continuerait à soutenir le festival
C'est cet hommage à Michel Gorgiev dans la revue 813.
On a rendu hommage, et puis à l'écrivain Sergueï Dounovets, qui était un de nos plus chers amis, et la journaliste Christine Ferniaud, qui intervenait chaque année, qui ont donné des textes à la revue pour cela.
Alors, il y a aussi un hommage à Serge Vacher, Hervé.
Alors, Serge Vacher, c'est... c'est un homme qui a qui est c'est un Limousin qui avait créé il y en a toujours, il y en avait dans les années 80, il y en a toujours aujourd'hui, qui avait créé un fanzine et qui avait créé aussi assez récemment le fanzine, c'était La Vache qui lit. Il a fait quand même à peu près 140 numéros, ce qui est quand même assez considérable. Et puis il a dans le Limousin, il a été à l'origine de plusieurs manifestations, dont la dernière était un salon Polar et Vin, dont j'ai eu d'excellents échos de la part des auteurs qui l'avaient fréquenté.
J'imagine.
Oui.
Connaissant un certain nombre de ces auteurs, voilà.
Et là, c'est Jean-Jacques Reboux, qui est une figure du polar depuis longtemps, qui a fait un hommage.
Alors après ces hommages, donc le dossier. Un gros dossier comme d'habitude. Je te laisse le présenter, Hervé, ce dossier.
Eh ben écoute, tu me laisses faire. Donc c'est un dossier consacré à Ellery Queen.
Ouais. On pourrait dire oh Ellery Queen.
Oh Ellery Queen, puisque Ellery Queen, effectivement, c'était un duo, c'était Frédéric Danet et Manfred Lee. Alors, Ellery Queen, on a pensé que c'était pertinent d'en parler parce que deux raisons. D'abord, effectivement, 813 et sa revue s'attachent à défendre les littératures policières. Il est bien évident qu'on met souvent en avant le roman noir parce que on pense que c'est l'expression la plus contemporaine sous toutes ses facettes de la littérature polar aujourd'hui. Mais il est bien évident qu'il y a aussi des anciens importants dont Ellery Queen est un élément évident. Et puis, le corollaire à ça, la deuxième raison, c'est que Ellery Queen, qui disait beaucoup quand moi j'étais jeune, aujourd'hui, ce n'est pas une référence connue et connue du jeune public, ça c'est très clair. Il n'y a pas tant de livres que ça qui soient disponibles, mais le tandem qu'on appelle donc Ellery Queen a très tôt exploré le roman policier d'énigmes, le roman psychologique avec du suspense, en s'aventurant même, en tout cas en n'ignorant pas l'émergence et la prise d'importance du roman noir. Et puis ils ont également fait une chose absolument remarquable, c'est-à-dire que ils ont créé le Ellery Queen's Mystery Magazine, qui a existé pendant des décennies et qui publiait des nouvelles polars et qui a publié les auteurs qui allaient tous devenir les plus grands. Et puis, et ce n'est pas la moindre des choses, c'est eux qui, au moment, après le McCarthyisme d'Achiel Hamet, qui avait eu les ennuis que l'on sait avec la justice américaine, ou l'injustice américaine, d'Achiel Hamet était tricard, et ils ont republié des nouvelles de Dashiell Hammett, et ce sont eux qui l'ont remis au devant de la scène, ce qui n'est pas forcément l'anecdote la plus connue. Alors voilà, il y a plusieurs...
Ce dossier, c'est l'occasion de relire... ou de lire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas lu, Jean-Pierre Deloup, qui était un grand, j'ai envie de dire, théoricien du roman policier, un érudit, quoi, un grand, grand connaisseur de ce genre, puisque donc vous proposez dans 813 un article de la revue Polar, écrit par Jean-Pierre Deloup, consacré
on en publie là la première partie, il y aura la deuxième partie dans le prochain numéro, article American Queen, et Jean-Pierre Deloup, qui effectivement nous manque beaucoup parce que c'était, il avait une très grande connaissance et très ouverte sur la littérature, le polar, et par ailleurs, il était capable de donner un point de vue. qu'on pouvait partager, pas partager, ça dépendait des fois, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui effectivement avait aussi une étoffe de théoricien, tout en ayant une langue très personnelle et très vivante. Donc voilà, on a republié cet article, parce que Jean-Pierre Deloup était l'auteur, il avait aussi été l'auteur d'un dossier sur Jim Thompson, on a fait un aussi sur Jean Amila Mecker, qui est cher à nos cœurs.
Ouais, tout à fait.
Voilà, et donc, Jean-Pierre Deloup était un ami, je sais qu'il y avait eu un projet avant qu'il décède brusquement d'un recueil de ses textes, et bon, je sais que quand... Enfin, voilà, je connaissais assez Jean-Pierre pour que quand on republie quelque chose, ça ne soit qu'une manière de faire vivre encore un peu sa plume et sa pensée.
Alors Hervé, pour conclure sur Henry Quinn, est-ce que tu pourrais conseiller un roman, nos auditrices, nos auditeurs, qui voudraient découvrir cet auteur ?
C'est compliqué, mais bon, parce que par ailleurs y compris, je ne sais pas forcément ce qu'on peut trouver aujourd'hui... Ça peut dépendre des goûts. Je pense quand même, il y en a un dont parle Jean-Paul Gratias, qui est par ailleurs le traducteur aujourd'hui de James Ellroy, de David Peace et de plein d'autres gens, mais qu'il avait traduit, qui s'appelle « Et le huitième jour », et dont il parle d'ailleurs dans la revue. Moi, je pense que c'est un texte très intéressant d'Ellery Queen, mais enfin, je sais pas... Ça dépend ce qu'on peut trouver, ou en librairie aujourd'hui, ou chez un bouquiniste, je sais pas. Moi, j'avais eu du plaisir quand j'étais. Moi, je l'avais découvert avec, je crois que c'était Le Mystère des Frères Siamois, ou. Mais enfin.
Dire Le Mystère des Frères Siamois, c'est bien. C'est un beau titre pour Henry Quinn. Alors, dans la revue 813, depuis quelques numéros, il y a une playlist d'un auteur. Et donc, cette fois, c'est Marin Leda, un auteur français qui est une actualité. Il y a un roman qui sort là, je pense.
Qui est sorti il y a peut-être une dizaine de jours, qui s'appelle L'homme qui a vu l'homme.
Voilà. Alors, on va s'inspirer de cette liste pour faire une petite pause. Bon, je sais pas si ce sera vraiment une pause, puisque c'est Metallica Batterie. We'll be right back. Variation en noir dans Variation sur Radio PFM le dernier vendredi du mois. Un rendez-vous consacré aux littératures policières avec 813, l'association des amis des littératures policières, et Hervé Delouche, son président. Hervé, toujours là ?
Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas si c'était une pause, mais en tout cas, c'est très bien pour se réveiller le matin.
Voilà,
très bon choix.
Oui.
Lara Ledin propose d'ailleurs une playlist dont un certain nombre d'albums, de morceaux choisis remuent un peu d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà.
Alors effectivement, c'est ce qui nous permet de recharger nos batteries. Pour les auditrices et les auditeurs, tu dis que c'est bien pour se réveiller le matin. C'est vrai que exceptionnellement, ce Variation en noir a été enregistré dans les conditions du direct, mais enregistré avant l'émission en elle-même, et un matin assez tôt. Mais ça fait du bien. Alors, dernière chose par rapport à ce numéro 117 de 813, avant ton coup de cœur du mois, Hervé, c'est un entretien qu'on trouve dans ce numéro avec Romain Slocombe. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de très, très discret. Il est déjà venu au Salon du Livre à Arras, très, très discret, très sympathique, mais en fin de compte terriblement efficace. Il avait donné un roman il y a un peu plus d'un an, intitulé, alors il faut que je retrouve la
pointe,
Monsieur le Commandant, voilà. Et donc là, à l'occasion de la sortie d'un roman peut-être plus Monsieur le Commandant, c'est un roman tout court, on peut considérer que c'est un roman noir, mais on peut considérer que c'est un roman tout court. Et donc là,
il y a du crime dedans.
Il y a quand même du crime, mais bon, il y a beaucoup de crime. Et donc là vient de sortir Seuil policier, donc dans une collection vraiment catalogué policier, un nouveau roman de Romain Slocombe, Première station avant l'abattoir. Et donc vous l'avez rencontré à l'occasion de cette sortie, Hervé, enfin 813. Là.
Oui, c'est Corinne Nedet qui a fait cette interview. Romain Slocombe, Première station avant l'abattoir, il y a une préoccupation de toute façon de Romain Slocombe, qui est celle de l'histoire et des pans un peu méconnus de l'histoire, et Première station avant l'abattoir, ça nous emmène à Gênes en 1922, où il y a une de ces conférences qui suivait la Première Guerre mondiale, avec toutes les questions des réparations, etc. Mais elle a cette originalité, cette conférence, que pour la première fois, puisqu'y sont associés les bolcheviques, les représentants de la toute jeune Union soviétique, et en même temps on est dans cette Italie où le fascisme est en train de grimper. Et Romain Slocombe, pour aller très vite, il fait avec ce livre un livre où il y a beaucoup d'ombre, une grande noirceur, parce qu'il y a Première station avant l'abattoir, le titre veut bien dire les choses, c'est-à-dire que c'est la première étape avant ce qui sera ce que Victor Serge appelait Minuit dans le siècle, c'est-à-dire le triomphe et du fascisme et du stalinisme. Et là, on voit effectivement les deux à l'œuvre, puisque y compris à l'intérieur de la délégation soviétique, il y a déjà les règlements de compte où les staliniens éliminent les vrais bolcheviks, si l'on peut dire. Et de l'autre côté, il y a donc ce fascisme naissant et actif, il va y avoir la marche sur Rome et tout. Et à côté de ça, il fait ça dans un roman d'une apparente légèreté qui emprunte beaucoup aux romans d'aventure, aux romans d'espionnage. On est sur la Riviera, il y a des femmes qui disparaissent, on croise Ernest Hemingway sous un autre nom, enfin, etc. C'est à la fois noir et très plaisant, très... Voilà, c'est une... manier comme ça la force de l'évocation et la légèreté, c'est vraiment assez prodigieux.
Voilà, donc ça c'est la rencontre avec Romain Slocombe dans 813, le dernier numéro de la revue de l'Association des Amis des Littératures Policières. Alors, avant de se quitter, pour ce numéro de Variation en noir de janvier 2014, Hervé, ton coup de cœur de ce mois?
Alors, mon grand coup, c'est vraiment un grand coup de cœur que j'ai découvert un peu sur le tard. C'est paru l'été dernier. C'est chez Rivage, Thriller. Ça s'appelle Né sous les coups de Martin Waits. Martin Waits, c'est un romancier anglais. C'est son premier roman publié. Le livre se passe, alterne des chapitres qui sont maintenant et avant. Avant, c'est 1984. On est dans le nord de l'Angleterre, dans une ville imaginaire, mais qui en fait est un condensé de plusieurs villes, qui s'appelle Caldwell. 1984, là-bas, ça veut dire qu'on est en pleine grève des mineurs. Cet immense mouvement magnifique qui fut anéanti par Margaret Thatcher, avec l'aide de l'ensemble des politiciens, avec l'aide des médias, et il y a cette atmosphère, il y a un côté fresque historique, comme je parle à quelqu'un, toi Guy, qui aime beaucoup Victor Hugo, il y a des accents de ses romans du 19e dans ce roman. Il y a des moments, les batailles des mineurs et de la police sont des moments très intenses. Et en même temps, il y a maintenant, c'est-à-dire on est 20 ans plus tard, et le roman ne va cesser de mettre en scène des gens qui étaient acteurs à ce moment-là et qu'on retrouve aujourd'hui. Que sont-ils devenus? Et le lien entre tout ça est fait par un jeune journaliste à l'époque idéaliste qui était aux côtés des mineurs pour suivre leur lutte et qu'on retrouve aujourd'hui. Il est revenu, il a eu 20 ans de vie, des désillusions. Il est revenu là pour écrire un livre sur cette époque-là. Et le roman n'est pas une simple juxtaposition de hier et aujourd'hui. Peu à peu, on comprend des drames qui se sont noués. Il y a le drame collectif, évidemment. Il y a les drames, familiaux, des drames personnels. C'est un roman aussi où il y a des pages très, très fortes sur l'amour, le bel amour, parfois l'amour sale, le sexe. Et puis sur cette région sinistrée, évidemment, qui a été après... la proie de la corruption, la drogue et toutes les désespérances qui peuvent aller avec ça. Ça se lit, ça se dévore, ça fait 450 pages qu'on n'a pas envie d'arrêter de lire et c'est absolument remarquable. Voilà.
Eh ben écoute, Hervé, donc on redit, il y a un
Né sous les coups de Martin Waits, ouais. Chez Rivage Thriller.
Eh ben, c'est une très très bonne idée de lecture que tu nous donnes là, et j'ai vraiment très envie d'aller y voir de plus près. Voilà. Ben écoute Hervé, merci pour tous ces conseils de lecture, hein, et on se retrouve dans un mois.
Eh ben, avec grand plaisir pour ce rendez-vous.
Voilà, et on se quitte avec un extrait du dernier album de Bruce Springsteen, High Hopes.
Très bien.
Salut Hervé.
Salut Guy. Something to improve your health. Taste of that one little weakness you were.
looking for the key, that box you locked yourself in. Just step up to the line and be one of Harry's friends.
Alors le boss, donc l'album, ce dernier album, c'est High Hopes, mais le morceau qu'on vient d'écouter, qu'on écoute, c'est Harry's Place. Voilà, c'était Variation en noir, dernier vendredi du mois dans Variation, avec l'aimable complicité de Bernard, un rendez-vous qui nous permet de parcourir les littératures policières avec 813, l'association des amis des littératures policières, et son président Hervé Delouche. Rendez-vous dans un mois.